Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Bonjour, et bien Éclairage s'intéresse aujourd'hui à une question somme toute qui revient dans l'actualité assez régulièrement. On l'a vu tout à l'heure, j'allais dire tout à l'heure, presque tout le temps parce que c'est une tendance longue. La crise des banlieues par exemple. La crise des banlieues a pu montrer de manière assez flagrante à quel point, semble-t-il, selon beaucoup de commentateurs, les populations d'origine étrangère n'étaient pas bien intégrées dans notre pays. Mais s'est-on seulement posé la question de savoir ce que coûtait cette intégration, cette immigration ? A-t-on les outils pour bien mesurer exactement de quoi il s'agit, de quoi on parle ? A-t-on fait déjà des tentatives à l'échelle de l'État, des politiques, pour mesurer la portée des politiques publiques en la matière ? Eh bien, on va essayer de débroussailler un petit peu tout cela avec vous, Yves-Marie Leland. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, démographe, géopoliticien. Je cite deux de vos ouvrages parce qu'ils s'inscrivent aussi finalement dans le cadre de toutes ces recherches. Et puis dans le domaine de la démographie, de la politique et de l'immigration, tout est finalement lié. Alors, le premier de vos ouvrages, enfin le premier, le dernier paru, Allemagne, chronique d'une mort annoncée chez François-Xavier de Guibert, qui fait état de l'état de délabrement démographique avancé de l'Allemagne. Mais sommes-nous dans un meilleur état ? Vous nous le direz peut-être d'ailleurs. Et peut-être est-ce lié à l'immigration, le fait que nous soyons dans un meilleur état, apparent en tout cas, statistique. Autre ouvrage, c'est l'avenir démographique des grandes religions, également chez François-Xavier de Guibert. L'avenir démographique des grandes religions, le facteur religieux, s'il est peut-être en arrière-fond de cette crise des banlieues, parce qu'on a dit que l'islamisme n'était pas le levier, n'était pas le facteur déclencheur de cette crise. Peut-on pour autant ignorer l'aspect religieux de toutes ces manifestations ? Alors, si vous êtes invité aujourd'hui, c'est parce que à la Fondation Saint-Gervais-Polignac, le 17 novembre, s'est tenu sous votre égide un colloque intitulé « Immigration, intégration, un essai d'évaluation des coûts économiques et financiers ». Alors j'insiste d'abord sur ce point, essai d'évaluation. Jamais on n'avait tenté d'évaluer la chose.
Bien, si, on avait tenté, mais on avait raté. Il y a eu un essai, on peut dire, de Philippe Séguin, le président de la Cour des comptes. Ce n'est pas rien, Philippe Séguin, ancien ministre, président de la Cour des comptes. Il a donc publié un rapport sur ce sujet, mais qui n'apporte rien. Il n'y a rien dedans.
Et
il n'apporte rien parce que... Mais c'est presque dérisoire. Mais ce n'est pas la faute de Philippe Séguin, qui est un homme remarquable, que je connais bien, un homme rigoureux. Simplement, il n'a pas été en mesure d'obtenir les données. Parce que les coûts en question sont éclatés dans tous les ministères, dans toutes les directions, dans tous les chapitres budgétaires, d'une part, donc on ne sait pas où ils sont vraiment, et d'autre part, les administrations, soit par inertie, disons, soit par idéologie, il faut bien le dire, se refusent à fournir ces indications.
Donc déjà, aller chercher l'information, c'est le premier travail.
Aller chercher l'information, c'est un travail de Romain, de Bénédictin, que nous avons fait en partie, un peu de briques et de rocs, d'où le terme que vous avez souligné à juste titre, un essai. Parce que nous estimons que nous avons, comme en rugby, on a marqué un essai, mais il faut le transformer. Et la transformation est la période la plus difficile. Ceci étant, nous l'avons fait pour un certain nombre de raisons. Je ne sais pas si... Je peux insister là-dessus. D'abord, notons que j'avais lancé cette idée il y a 6 mois. Et que 6 mois après, à la veille du colloque, les émeutes urbaines éclataient. Alors, ce qui prouve que j'ai eu de la chance, parce que ça a donné une certaine actualité à nos travaux. Mais d'ici de dire que c'est moi qui ai déclenché les émeutes, j'espère
non.
Que c'est un pas qu'il ne faut pas franchir.
On n'ira pas jusque-là, bien entendu.
Mais c'était donc la préoccupation principale était de faire sortir de terre un coût qui a été complètement occulté. Car lorsque la France a ouvert ses frontières, car il faut bien le reconnaître, on a actuellement, il y a 2 ans, on fait encore venir 250 000 entrées légales ou illégales. Ensuite, en faisant une estimation, 250 000 par an, c'est colossal. En 4 ans, ça vous fait 1 million de plus. Donc... la France a ouvert ses frontières.
Mais alors ces chiffres, où allez-vous les chercher pour le coup ?
Ah ben attendez, pour le coup, je vais les chercher tout simplement là où ils sont, dans les statistiques du ministère de l'Intérieur. Alors le ministère de l'Intérieur tient quand même ses fiches assez à jour pour ce qui concerne les entrées. Sauf pour l'immigration clandestine, qu'il évalue par recoupement. Par recoupement, par exemple, le nombre d'inscrits, disons, à l'aide médicale gratuite de l'État. Il y en a 178 000. Vous voyez, on arrive à savoir approximativement quel est le stock d'immigrés illégaux, les inscriptions dans les écoles également. Vous voyez, il y a un ensemble de fichiers qui permettent de savoir qu'ils rentrent de façon illégale entre 80 000 et 100 000 personnes par an. Sans compter les mineurs, hein. Sans compter les étudiants. Les étudiants qui viennent s'ajouter. Donc la France est devenue véritablement un centre d'accueil du tiers-monde, en fait, et notamment, aux raisons des deux tiers et même plus, d'Afrique noire et du Maghreb, et un peu de Turquie. Alors l'Afrique noire, ce qui est amusant dans les récentes émeutes, enfin amusant, c'est un terme peut-être qui n'est pas tout à fait approprié, on a brusquement découvert l'énorme présence noire au sein de la population immigrée, ce qu'on avait toujours tendance à nier. Et on découvre brusquement qu'il y a effectivement une communauté d'origine africaine noire tout à fait considérable. On les a vus tout simplement sur les écrans en train de mettre le feu, les voitures ou se livrer à ce genre de facéties. Et pour ma part, dans un colloque qui avait lieu à 5 ans, nous avions déjà soulevé ce lièvre. Nous avons, dans un colloque qui s'intitulait « Où va l'Afrique noire ?», dit qu'il y avait là un problème tout à fait considérable et qu'il fallait par conséquent s'en préoccuper. Bien entendu, la presse, comme d'habitude, n'a fait aucun écho à ce que nous avions écrit, parce que des actes ont été publiés. Mais ça, c'est la France. Quand on sort des problèmes, et puis après, 5 ans après, 6 ans après, 10 ans après, ils sortent de terre quand, souvent, c'est très tard. Sinon, trop tard.
Donc cette masse d'informations, vous l'avez obtenue essentiellement auprès des ministères, et si je vous suis bien, d'abord du ministère de l'Intérieur.
Alors le ministère de l'Intérieur nous a fourni, pour ce qui concerne les entrées, un chiffre. Enfin, des chiffres, pardon, que nous avons collationnés. Par ailleurs, nous avons utilisé les données de la CNAV, la classe nationale de vieillesse, pour évaluer les sorties du territoire, parce qu'il y a des sorties. Mais contrairement à ce que certains sociologues prétendaient, en fait, une fois rentrés en France, et ayant travaillé ou pas travaillé d'ailleurs, en France, les immigrés ne repartent pas. Ou plus exactement, ils repartent en très petit nombre, entre 5 et 10% à peu près. Ce sont les données de la CNAV, hein, de la Caisse Nationale. Ça a été publié il y a 3 ou 4 mois à peu près dans la presse. On trouve énormément de choses quand même fragmentaires dans la presse. Alors pour le reste, nous avons procédé comme seuls des économistes peuvent le faire quand ils n'ont pas d'autres sources. Nous avons tâché d'isoler par exemple les frais de santé. Les frais de santé, on les connaît. 500 millions pour ce qui concerne l'aide médicale gratuite de l'État. Et pour les frais de scolarité, nous avons essayé d'évaluer le surcoût. Non pas le coût, mais le surcoût, c'est-à-dire le coût supplémentaire de l'éducation maternelle et secondaire dans les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, vous savez, les fameuses ZEP. Alors, pourquoi avons-nous procédé comme ça? Parce qu'il me paraît illogique, si vous voulez, d'imputer à la communauté immigrée la totalité du coût. Et si c'était des Français de souche, ce que Michel Tribala appelle la population native, d'un terme qui me paraît d'ailleurs un peu curieux. Aux États-Unis, c'est ainsi que l'on désignait les Indiens d'Amérique. Mais enfin bon, passons là-dessus. Nous sommes des natifs, par conséquent, et la population scolaire native, en quelque sorte, selon Michel Tribala, représentait un certain coût. Ce qui paraît intéressant, c'est de voir le surcoût qui est lié, encore une fois, à l'éducation d'enfants dont les familles ne parlent peu ou pas le français, personne ne parle pas du tout le français, qui sont élevés dans une tradition totalement différente de celle de la moyenne des Français, des gens qui n'ont pas du tout cette espèce de vernis que nous avons accumulé au cours des siècles, n'est-ce pas, qui fait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, notamment ce qui concerne le traitement des femmes, ou même des enfants d'ailleurs. Et leur éducation implique par conséquent un effort supplémentaire, c'est cela que nous avons essayé d'isoler. De saisir.
Voilà. Mais alors, Yves-Marie Lolland, j'aimerais qu'on revienne à cette quête de l'information. Qui vous a fourni? Est-ce que les autres ministères?
Non, les ministères
sont...
nous ont fourni aucune information.
Ils ne se sont pas du tout pliés à votre
la
requête.
Chercher. Nous sommes allés la chercher. À partir de quoi? Eh bien, à partir de ce que nous avions, c'est-à-dire les documents budgétaires.
Voilà.
Les documents budgétaires, comme vous le savez, le budget sort des bleus, des jaunes, enfin bref.
Donc sur la foi de ces documents, vous êtes allé voir telle ou telle personne
non,
en disant...
Nous n'avons été voir personne, parce que de toute façon, ils ne nous auraient pas reçus. Et s'ils nous avaient reçus, ils ne nous auraient rien dit. Je peux le dire par expérience personnelle.
Mais c'est légitime,
c'est une forme... comme de la peste de gens comme nous. Nous sommes des porteurs d'ennuis. On vient leur demander des informations qu'ils n'ont pas envie de donner, et nous risquons ensuite d'utiliser ces informations pour le public. C'est la pire des choses qu'on puisse faire. Alors ce que nous sommes allés faire, c'est prendre les documents et travailler à partir d'hypothèses. Et d'ailleurs, je dois reconnaître que le personnel administratif n'est absolument pas armé pour ça. Il faut faire des hypothèses qui partent par exemple du pourcentage, ça on le sait, hein, de jeunes de tel âge à tel âge présents dans telle zone. Là, ça vous donne une idée de la configuration de la population de jeunes, des moins de 5 ans, des moins de 10 ans, des moins de 15 ans. Et à partir de cela, vous pouvez, mais de façon très approchée, déterminer le fameux surcoût dont je vous parlais, en utilisant un pourcentage, vous voyez. Un pourcentage qui, d'ailleurs, dans les travaux de mon collègue et ami Bichot, a été systématiquement traité en dessous des valeurs réelles, parce que nous n'avons pas voulu tomber dans l'excès de certains calculs qui remontent à bien des années, d'un parti un peu extrémiste qui est allé gonfler la baudruche au point où elle a explosé. Alors nous avons voulu éviter ce genre de travers, et nous avons donc plutôt calculé à minima qu'au maxima, vous voyez. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait un certain pourcentage, on l'a divisé en deux, grosso modo.
Ah oui.
Donc les chiffres que nous avons donnés, à mon avis, c'est vraiment des prix planchers, enfin des coûts planchers.
Et pourquoi en 2 et pas en 3 ou en 4?
Eh bien, on aurait pu le diviser en 10, évidemment, ou en 100. Mais enfin, à ce moment-là, on tombe dans le ridicule.
Oui.
Et il faut rester raisonnable. Mais j'ai le sentiment que ce que nous avons donné, encore une fois, c'est des coûts, des estimations planchers. Et que si, comme je l'espère, des travaux sérieux sont amorcés, nous verrons que, en fait, nous avons indiqué la partie la plus basse de la fourchette. Et non
alors,
pas la partie supérieure.
Yves-Marie Leland, on a bien mesuré la difficulté que vous aviez eue à récolter cette information. Une fois que vous avez récolté cette information, est-ce que vous pouvez dire que vous avez tous les outils à votre disposition pour mesurer le coût de l'immigration et de l'intégration? Quels sont les outils dont on dispose ou dont il faudrait disposer?
La réponse s'impose elle-même. Pour calculer ce genre d'informations, et pour ce qui concerne le secteur public, il faudrait naturellement que, premièrement, les administrations elles-mêmes soient en mesure de faire la différence entre ce qui va aux natifs, aux populations autochtones, hein, les Français de souche, disons, et puis ce qui va aux populations immigrées ou issues de l'immigration.
Mais cette distinction n'existe pas aujourd'hui.
Ça n'existe pas pour des raisons très simples, c'est qu'on n'a jamais demandé à l'administration de le faire, on n'en a pas fait parce que la CNIL, notamment, entre autres, mais il n'y a pas que la CNIL, hein, vous savez la CNIL...
Qui protège les libertés,
se refuse ou refuse le droit aux administrations de procéder à ce genre de ventilation. D'ailleurs, ça va très loin, parce que non seulement on ne connaît pas les dépenses, mais on ne connaît pas également le volume des populations. Aux États-Unis, prenons un exemple. Comme vous le savez, les États-Unis publient eux aussi un torrent de statistiques sur la population américaine, et ils distinguent les Afro-Américains, les Américains, les Américains, oui, qui sont d'origine africaine, des Latino-Américains, les Américains d'origine latine, Mexique, Guatemala, etc., etc. On sait exactement quels sont les descendants des Vietnamiens, des Coréens,
Et les Européens eux-mêmes?
Et des Européens eux-mêmes, bien entendu. En France, rien de tel. Parce que la République ne veut pas reconnaître ses enfants, selon leur origine. C'est contraire à liberté, égalité, fraternité. Moyennant quoi, on connaît les étrangers, ceux qui n'ont pas encore le passeport français, mais l'on ignore totalement, ou de façon très approximative tout au moins, le nombre des Français d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine turque.
Et là,
dès lors qu'ils ont un passeport ou une carte d'identité française. Voilà. Dès qu'ils passent, si vous voulez, dès qu'ils ont franchi le cap de la naturalisation, et on en naturalise à peu près 100 000, 110 000 par an, hop, ils disparaissent instantanément des statistiques. Alors maintenant, l'INSEE commence tardivement à sortir quelques éléments, mais c'est tout récent, et ils sont encore très approximatifs.
Et à combien pourriez-vous les évaluer?
De quoi ?
C'est pour ça que vous avez divisé par deux.
À combien j'ai évalué quoi ?
Le nombre de personnes qui ont obtenu la nationalité française.
Je vais vous le dire. C'est 110 000 par an.
Complètement.
Et d'après ce que j'ai lu, ça c'est une statistique qui paraît sérieuse du ministère d'ailleurs de l'Intérieur, encore une fois, qui est la principale source en la matière, à peu près sur les jeunes en question, vous savez, ceux de moins 20 ans qui ont brûlé les voitures, etc., etc. 41% ont obtenu la nationalité française. 41. Presque la moitié.
On est de l'ordre de 1 sur 2. Hein.
1 sur 2 et sont déjà, si vous voulez, de nationalité française, soit par le biais de la naturalisation, soit par le biais du jus soli. Ils sont nés en France, donc ils sont français. Et donc ils échappent à la statistique. Donc on ne les connaît pas.
C'est ça. Donc votre essai d'évaluation ne porte pas sur eux, il ne porte que sur la catégorie.
Si, je m'excuse. Non.
Vous les avez pris en compte.
Ah oui, non, mais attendez. Oui. Nous n'aurons quand même pas laissé en dehors de nos calculs des masses de personnes aussi considérables. Ça serait ridicule. Mais ceci étant, nous l'avons fait avec les instruments très précaires dont nous disposons. Après tout, moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur ou de l'Éducation nationale, ce que je regrette d'ailleurs quelquefois. Mais bon, c'est comme ça.
Ça viendra peut-être.
Oui, c'est sûr. J'attends ça avec impatience. Mais en tout cas, je n'ai pas, si vous voulez, les instruments précis, les instruments régaliens dont il pourrait disposer s'il le souhaitait, quoi. Je crois d'ailleurs que l'Intérieur, autant que je sache, se préoccupe de cela et essaie de forger de nouvelles capacités d'investigation. Mais l'Intérieur, c'est pas le Premier ministre, hein. Je suis désolé. Il a une aire de compétence qui est quand même très délimitée. Et par conséquent, c'est plutôt au niveau du Premier ministre ou de la présidence de la République que le problème devrait se poser.
À tout de suite, Yves-Marie Leland.
Canal Académie.
Éclairage avec Yves-Marie Leland sur cette question immigration-intégration, un essai d'évaluation des coûts économiques et financiers. C'est un colloque qui s'est tenu le 17 novembre à la Fondation Saint-Gerre-Polignac que dirige Édouard Bonnefous. Vous avez pu réunir à la faveur de ce colloque des personnalités qui ont voulu s'engager elles-mêmes sur ce terrain qui est quand même un petit peu difficile parce que, comme vous le disiez à l'instant, il y a toute une partie de l'information qui nous échappe, d'une part, et on procède par hypothèse, par extrapolation. Est-ce que des scientifiques, des sociologues veulent s'engager sur ce terrain ?
Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs la richesse de ce débat. C'est que nous avons réussi à obtenir de la part de personnalités qui se sont montrées très courageuses, parce que c'est pas facile de travailler dans ce domaine-là. Je pense à Gérard Lafay de Paris 2 et à Jacques Bichot de Lyon 3, l'ancien président de Famille de France. Ce sont des personnalités infiniment respectables qui ont derrière eux une longue carrière d'enseignement et de travail, de recherche dans des associations. Et pour eux, évidemment, c'est un investissement intellectuel, mais également un risque, parce que quand vous faites un travail de pionnier, quel que soit le domaine considéré, et si vous sortez des éléments d'information qui choquent à droite et à gauche, eh bien, évidemment, vous allez vous faire, peut-être pas des ennemis, mais des gens qui vont éprouver un certain ressentiment.
On s'expose, de toute façon.
Ben, on s'expose, que voulez-vous, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Alors, je reviens un petit peu sur ce problème. La vérité n'est pas toujours bonne à dire. Pourquoi nous avons fait cela ? Eh bien, parce que je pense que les Français doivent s'attendre à un effort national colossal. Je dis bien colossal, et dans des circonstances très difficiles. Thierry Breton vient de nous sortir des chiffres effroyables.
Donc, ministre de l'économie.
Du ministre de l'économie. 2 000 euros de 2 000 milliards, excusez-moi.
Le déficit public.
Ça serait bien. Non, pas déficit, l'endettement.
La dette.
Presque le double de ce que Bruxelles, dans sa bonté, veut bien nous reconnaître. 120% du PIB, du produit intérieur brut. Nous dépassons à ce moment-là largement l'Italie. Et qu'est-ce qui va payer ça? Pas moi qui accède enfin au stade d'une vieillesse heureuse, mais mes enfants et petits-enfants. C'est une charge colossale. Au même moment, nous avons 5 millions de personnes âgées supplémentaires dans les 5 prochaines années qui vont arriver et qui vont être armées de droits à la retraite. Et en même temps, nous avons le prix du pétrole qui a peu de chance, monsieur, de décliner, mais qui va, au contraire, continuer sa progression, parce qu'il n'y en a plus. Et par conséquent, tout cela est porteur d'inflation et de stagnation, voire même de chômage. Vous voyez par conséquent le contexte extrêmement défavorable dans lequel va se situer cet effort d'intégration. Et cela va exiger de la part de nous tous, citoyens, beaucoup de renoncements, beaucoup de sacrifices et beaucoup de compréhension. Voilà l'esprit dans lequel j'ai organisé ce colloque.
Mais jusqu'où, je dirais, cet effort peut-il aller ? Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que le pays est largement épuisé. La croissance n'excède guère les 2%.
Non, le pays n'est pas épuisé du tout. Le puits d'or, c'est différent. Depuis 30 ans, nous avons, les uns et les autres, vu des politiques parfaitement démagogiques dans tous les azimuts qui font que nous sommes une société bloquée. L'expression n'est pas de moi, elle est, rappelez-vous, de Jacques Chaban-Delmas. Et nous sommes bloqués, nous sommes fossilisés. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'au même moment, vous aviez les banlieues en feu, vous aviez cette interminable grève des transports à Marseille. C'est significatif. Les grévistes se moquaient éperdument de savoir si la France était en train de connaître la plus grave crise ethnique de son histoire. Ce qui les intéressait, c'est la grève, je veux avoir 1% ou 2% de plus sur mon salaire. Le reste, ça m'est complètement égal, ou travailler, non pas 35, mais 30 heures. Donc, je pense que les Français sont extraordinairement peu préparés à ce qui les attend. Alors, pour éviter des convulsions, comme on en a connu au cours de notre histoire, on connaît des convulsions, des crises qui peuvent prendre un tour dramatique, je crois qu'il faut leur dire la vérité. Thierry Breton le fait. C'est très courageux ce qu'il fait. Et ça aurait dû être fait plus tôt, à mon avis. Enfin, bon, il le fait. Et nous, à notre petite mesure, nous essayons de faire part en disant que l'intégration est une nécessité impérative et qu'elle va coûter terriblement cher. Et j'ajouterais même qu'on ne sait toujours pas ce qu'il faut faire, d'ailleurs.
Alors voilà, vous avez mis en cause les politiques publiques, mais sait-on seulement s'il y a une recette à l'intégration? On s'est aperçu, enfin c'était parmi les commentaires qui étaient faits sur la question, que le modèle britannique a implosé à la faveur des attentats de Londres, le modèle néerlandais a lui-même connu des déboires avec l'assassinat de Theo van Gogh et puis de Pim Fortuyn. Est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui à la fin d'un rêve européen qui consiste à ne plus pouvoir, il y a une surcapacité ou une sous-capacité à intégrer, je ne sais pas. Et est-ce qu'on a encore un modèle de ce point de vue-là? Est-ce qu'on sait dans quelle direction se diriger?
C'est intéressant comme question parce que moi ça fait très, très longtemps, presque 35 ans, j'étais au cabinet de Michel Debré, quand j'ai fait ma première note sur les problèmes d'immigration en provenance des DOM-TOM. C'est pas hier, hein, 35 ans. Et d'ailleurs, j'avais publié, alors là, cette fois-là, il y a 25 ans, dans Valeurs Actuelles, un premier article sur le sujet, en disant, voilà, il faut quand même faire quelque chose, comment peut-on le faire, et à quel coût, etc. Bon. Donc, je connais bien la question, mais ce qui m'a frappé, c'est que, pendant très longtemps, et encore dans certains cercles aujourd'hui, les bons esprits se refusent à ce genre de choses. Ils disent non, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer, on les fait venir, ils s'intègrent, ça coûtera ce que ça coûtera, mais tout va bien. C'est là qu'il y a vraiment une difficulté, alors que savoir aujourd'hui est un devoir, c'est un devoir national. On ne peut plus admettre des commentaires des uns et des autres, je ne veux pas citer de noms particuliers, me disant que la liberté, l'égalité, la fraternité exigent qu'on ne sache pas qui est d'origine de quel pays, dans le territoire français. Parce que comment voulez-vous construire des politiques intelligentes et adaptées si vous ne connaissez pas la population à laquelle elle doit s'adapter? C'est aberrant. Quand on fait des politiques agricoles, on sait combien il y a de poulets, ou combien il y a de veaux, ou combien de lapins, et on le sait à l'unité près. Mais dans ce beau pays, pour ce qui concerne les hommes, on ne sait pas. Et on ne veut pas savoir. Donc je crois que de ce côté-là, il y a une véritable révolution mentale. Il faut renverser ces barrières et savoir qui est d'origine africaine ou maghrébine. Ça ne veut pas dire qu'on les respectera moins. C'est jeune ou c'est moins jeune, quelle que soit l'origine, au contraire.
Mais avec le risque quand même d'être stigmatisé, parce que le seul fait de marquer une différence, c'est déjà marquer un obstacle à l'intégration, puisque l'intégration suppose que ces différences disparaissent.
Mais vous venez de dire, cher ami, à l'instant, que l'intégration ne marchait plus. Vous venez de vous-même d'acter...
Le modèle est en crise, mais tout le monde le reconnaît.
Non, il n'est pas en crise, il est mort. Mais Michel Tribala l'a écrit récemment dans le Figaro Magazine. Alors Michel Tribala, qui est une référence, le Figaro Magazine, on peut pas dire que ce soit des suppôts de Satan. Le modèle français est mort. Le modèle anglais est mort. Le modèle néerlandais est mort. Alors il faut inventer quelque chose de nouveau. Et puisque vous me poussez dans mes derniers tranchements, à travers ces questions, je vais vous dire qu'à mon avis, les mesures qui ont été prises, et il y en a un certain nombre par le gouvernement, inspirent deux réflexions. La première réflexion, c'est que on a quelquefois l'impression qu'on ajoute une couche supplémentaire à ce qui est déjà existe. Autrement dit, c'est ce que disait le général Westmoreland, vous savez, au Vietnam, en disant « more of the same », faisons davantage ce qu'on fait déjà. Moyennant quoi, ça a été l'échec que l'on sait bien au Vietnam, dans la guerre du Vietnam. Et là, j'ai l'impression qu'en ajoutant plus de médiateurs, plus d'encadreurs, plus de primes, plus d'allocations, plus de franchises, on va arriver exactement au même résultat, mais à un coût bien supérieur. Je crois qu'il faut réinventer quelque chose. Le problème pour nous, c'est de faire du nouveau, de faire du neuf. Et je pense qu'il faudrait partir d'une observation toute simple. Un immigré venant du Guatemala ou du Mexique qui arrive aux États-Unis débouche instantanément sur le marché du travail. Un immigré qui arrive en France reste pendant des années et des années au chômage. Ou s'il obtient un job, c'est un métier, un travail peu qualifié, peu rémunérateur, qui le frustre. Donc, vous voyez, l'enjeu, c'est la formation, c'est l'intégration, c'est l'éducation. C'est ça le problème.
C'est le travail.
Oui, parce que comment est-ce que, à travers les siècles, on a intégré des populations étrangères? Il y a trois façons. Vous le savez aussi bien que moi. C'est l'école, c'est le travail et le service militaire. On a cassé l'école, on a cassé le travail, on a cassé le service militaire. Bravo! Moi, non, on n'intègre plus. C'est aussi simple que ça. Alors, on va chercher des histoires, des références à l'islam, et pas ceci et patata. Je crois que les musulmans, à moins d'être des fanatiques, comme ces jeunes gens-là de Birmingham à Londres, les musulmans sont comme tout le monde, ils veulent travailler, gagner leur vie, payer, s'il le faut, des impôts, pas trop, de préférence, et puis voilà, et puis avoir une maison ou un appartement. Ce sont des gens comme tout le monde. Mais il faut leur donner les chances, la possibilité de réaliser ces choses simples. On n'a pas fait. On ne l'a pas fait.
Donc ça signifie, si je vous suis bien, que le curseur du problème se déplace de l'immigration, de l'intégration, vers l'emploi, vers l'école, vers l'éducation.
Attends,
et on revient en fait aux fondamentaux français.
L'école, les histoires de... Il ne faut pas les stigmatiser, ça je crois lire du Nouvel Observateur quand j'entends. Ce sont des gens qui, à gauche, ont quand même proféré des âneries pendant 20 ans. Et c'est tout récemment, il y a 6 mois, je crois, que Le Monde, pour ne pas le citer, dit ben finalement, oui, les jeunes, en fait, c'était essentiellement des jeunes des quartiers défavorisés. Donc, il ne fallait pas les stigmatiser, il ne fallait pas faire le jeu de Le Pen. J'ai entendu ce genre d'ânerie pendant 20 ans, et c'est extrêmement grave, parce que c'est ça qui nous a conduit directement dans le mur. Et le mur, c'est l'explosion des émeutes. Et si nous ne voulons pas que ça recommence en beaucoup plus grave, il faut changer. Il faut changer de discours, il faut changer de méthode. Sinon, nous allons aller de crise en crise, jusqu'à une véritable explosion. Cette fois-là, il y aura des morts.
Vous n'avez pas répondu à mes questions. Il y avait deux façons d'interpréter ces événements. Il y a le versant ethnique et religieux et le versant social. On essaie d'éviter de montrer que ces événements ont eu une origine ethnique et religieuse pour insister sur le côté social des choses. C'est votre analyse également, puisque quand vous nous dites que c'est l'emploi qui permet d'intégrer, Cela prouve que quelle que soit l'origine qui est la vôtre, vous pouvez vous intégrer par l'emploi. Donc il n'y a pas de frein ethnique ou religieux.
Bah,
on est bien d'accord.
Moi je m'excuse. Si, il y a des freins, mais pas une impossibilité. Attendons, un frein, c'est quelque chose qui ralentit. C'est pas quelque chose qui vous immobilise. Ce que je veux dire, c'est que une population, enfin un jeune homme, prenons un jeune homme ou une jeune fille, les jeunes filles s'intègrent plus facilement, hein, qui viennent du Mali ou du Congo. Ils parlent mal ou peu français. Sa famille s'exprime dans leur dialecte d'origine. Ils sont d'origine musulmane ou animiste, etc. Ils arrivent en France, ils vivent dans ces fameux ghettos. Ils voient la télévision où ils ne parlent pas un français qui soit vraiment celui de M. Malesherbes. Hein. Et arrivé à 18 ans, il va s'intégrer comme informaticien dans une entreprise d'informatique, ou il va devenir expert comptable, ou chirurgien. C'est une plaisanterie. Donc, ce n'est pas le stigmatiser que de dire qu'il a un problème d'adaptation linguistique, culturelle et éducationnelle à la société moderne que veut être la France. C'est même le bon sens. Ce qui me choque dans ce travers que je dénonçais tout à l'heure, c'est ce refus de voir. De voir que dans la vie, dans la population, il y a des différences. Ce n'est pas les stigmatiser que de dire à un Malien qu'il n'est pas de couleur blanche, il est noir. Bon, c'est parfaitement respectable d'être noir, mais il n'est pas blanc. Bon, ce n'est pas le stigmatiser que de lui dire qu'il ne parle pas français comme vous et moi. Il parle un français qui n'est pas tout à fait adapté à un recrutement dans une entreprise privée. C'est tout. Encore une fois, il y a eu un préjugé qui a été fabriqué par la gauche et l'extrême gauche depuis des années et des années, et qui joue à l'encontre de l'intégration et qui joue à l'encontre des immigrés. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que les meilleurs parmi les immigrés, les plus évolués, sont les premiers à dénoncer ce travers. Sont les premiers à dire non, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Nous connaissons notre problème. Pas vous, messieurs des beaux quartiers ou messieurs de la bien-pensance. Vous voyez? Et je peux citer des noms derrière. Je pense à Kedadouche, par exemple, qui est un garçon que je connais personnellement. Qui était le premier à dire ça. Non, il faut qu'on sache exactement à qui nous avons affaire, combien nous sommes et ce qu'il faut faire. Ça, c'est positif, vous voyez. Et non pas des gens que je ne citerai pas, mais que vous devinez, et qui disent, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas identifier, il ne faut rien faire, la République digère tout. Elle digère tellement bien.
Donc ça, c'est un argument qui se retourne contre les personnes que l'on veut, en fait...
Mais ils en sont les premières victimes, sapristi. C'est ça qu'il faut voir. Ils en sont les victimes. Et moi, je m'insurge avec virulence contre cette façon de projeter sur autrui nos propres fantasmes. Ce sont des propres fantasmes que nous, blancs, si vous voulez, français de souche, avons développés dans une optique très typée, enfin idéologique en fait, chargée de mauvaise conscience, de tiers-mondisme et j'en passe. Hein, et nous projetons ça sur une population qui en fait n'en a rien à faire.
Yves-Marie Lelan, on marque une seconde pause.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de l'histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Radio-Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Radio-Canal Académie.
On retrouve Anne Sotti de Chalon.
Éclairage donc qui s'intéresse... Aujourd'hui, à la question de l'immigration et de l'intégration, je rappelle qu'il s'agit d'un colloque organisé par la Fondation Saint-Germain-Polignac, c'était le 17 novembre, sous votre égide, Yves-Marie Lelan, intitulé « Un essai d'évaluation des coûts économiques et financiers ». Je rappelle que vous êtes géopoliticien, démographe, économiste. Vous êtes évertué à lier les trois disciplines d'ailleurs ? L'économie, la démographie, la géopolitique, est-ce que ça se tient ? Est-ce que c'était au cœur des réflexions ?
Non, l'économie m'a conduit à la démographie, la démographie m'a conduit à la géopolitique. Donc, si vous voulez...
Mais pour le sujet qui nous intéresse, est-ce que vous feriez le lien ?
Évidemment. Pour les géopoliticiens, un géopoliticien n'est pas quelqu'un qui inscrit sur sa carte de visite « Monsieur X, géopoliticien ». C'est quelqu'un qui a eu l'occasion d'apprendre, d'être formé et de pratiquer un certain nombre de disciplines diverses et variées, ce qui lui permet de porter sur le monde un regard diversifié, un regard compétent, voyez. Sinon, il lui manque quelque chose. Si vous ne connaissez pas la démographie, comment pouvez-vous juger de l'économie ? Si vous ne connaissez pas l'économie, comment pouvez-vous juger de la géopolitique ? C'est pas pensable. Et il y a aussi de la géographie tout court. Il y a aussi quand même de la sociologie là, dans tout cela, de la psychologie. Donc il faut être, si vous voulez, être plus qu'un amateur éclairé. Il faut quelqu'un qui quand même se soit investi dans ces différentes disciplines pour pouvoir en parler de façon raisonnable.
Donc un regard pluridisciplinaire avec des experts que vous avez réussi à mobiliser sur le sujet, qui ont accueilli d'ailleurs votre initiative avec un certain enthousiasme en se disant ben voilà, on va enfin creuser un sujet que l'on n'a pas l'habitude d'évoquer.
Non,
parce qu'il y a un certain... Non, aussi quand même.
Mais non, aucun enthousiasme, le fait que je les pousse l'épée dans les reins.
C'est vrai.
Mais ce sont des amis. je les ai empoisonnés jusqu'au moment. Vous savez, c'est un peu comme dans la Bible, on dit, je ne sais quel prophète, ils le bâtirent jusqu'au moment où il se mit à prophétiser. Voilà, et moi je ne suis pas allé jusqu'au cou, mais enfin je les ai ennuyés jusqu'à ce qu'ils arrivent à faire le travail. Et ils ont fait, bien entendu, un excellent travail.
Non, mais vous parliez de Jacques Bichot qui...
Oui.
Lui-même, de son côté, travaille aussi sur ces questions depuis pas mal de temps. Il a réussi à faire émerger certains sujets.
Non, il a travaillé sur ce sujet à l'occasion d'un précédent colloque qui s'intitulait « Ces migrants qui changent la face de l'Europe ». Vous voyez, c'était il y a 4 ans, nous avons fait déjà un premier colloque. Nous sommes des récidivistes, en fait. Et il avait fait un excellent travail, d'ailleurs, que je lui avais demandé, toujours pareil, dans la même circonstance, contraint et forcé. Et il avait réussi à montrer que la communauté immigrée en France couvrait à peu près, en matière de chômage, simplement les 2/3 de leur coût. Les 2/3. Donc la balance, elle est déficitaire. Et alors, ce qui est curieux, c'est que le professeur Birg, qui est de l'université de Biefelen, en Allemagne, a fait exactement le même parcours. Il a publié, j'en ai eu connaissance il y a quelques mois, un document à l'allemande avec énormément de statistiques, etc. Enfin, c'est très difficile à lire, mais enfin bon, qui dit que la communauté turque en Allemagne ne couvre que les 2/3 de ses coûts de santé et de chômage, vous voyez. Donc ça montre bien que finalement, cet handicap, on le retrouve partout, quelle que soit, si vous voulez, l'origine des gens, quoi.
Alors je résume un peu votre propos. Vous nous avez dit tout d'abord, les outils, il fallait les chercher dans les ministères et c'était loin d'être facile parce que beaucoup de rétention d'informations, on se méfie évidemment des scientifiques ou des géopoliticiens, des démographes, des économistes, que sais-je encore, qui s'intéressent un sujet qui, politiquement, est sensible, comme les quartiers. La société française, vous nous l'avez dit aussi, n'est pas bloquée sur le sujet. Elle n'est pas, enfin, elle est bloquée, mais elle n'est pas épuisée. En dépit d'une croissance un peu atone, on a encore des réserves. Et vous avez souligné aussi l'aspect démographique qui caractérise notre pays, le vieillissement de la population. L'intégration se fait dans des conditions extrêmement difficiles. Vous nous avez dit également qu'il ne fallait pas jouer sur la corde de la stigmatisation et que ça rendrait service à toutes les personnes que l'on souhaite intégrer, de savoir exactement d'où elles viennent pour, en quelque sorte, cibler la politique, les politiques publiques dans ce domaine. J'aimerais que vous nous sortiez, Yves-Marie Leland, un chiffre sur le sujet. Parce que vous avez chiffré 1 milliard d'euros.
Bah bien sûr, nous avons chiffré et
c'est bien un essai d'évaluation.
Alors voilà, parce que c'est la cerise sur le gâteau ou le sommet de la pyramide. Tous ces travaux devaient aboutir à ça, à un chiffre. Alors ce chiffre se compose en 2 chiffres. Et ils ne sont pas de moi, hein, je le dis tout de suite, bien qu'encore une fois j'y ai contribué, mais ils ne sont pas de moi. Et Jacques Bichot est arrivé à 24 milliards d'euros, 24,2 pour être précis, milliards d'euros, pour les coûts de l'immigration. Et Gérard Lafay, par un procédé hier très différent, est arrivé à 12 milliards d'euros pour les coûts de l'intégration.
Alors, il faut décomposer tout ça.
Comment ?
Il faut décomposer tout ça, parce que qu'est-ce que ça signifie ?
Non, je ne vais pas décomposer, non, mais... il y a la santé là-dedans, l'éducation, etc. Je ne vais pas le décomposer parce que d'abord, je n'ai pas les chiffres, mais ce n'est pas ça qui me paraît intéressant. Ce qui me paraît intéressant, je peux vous citer si vous voulez.
Non, mais déjà,
éléments.
La distinction entre immigration et intégration.
Voilà, alors ça, c'est quand même intéressant, parce que moi, j'avais fait un premier calcul dans lequel je disais, mais au fond, si je divise les 24 milliards dont je viens de parler, par les 250 000 entrées par an, j'arrive à un chiffre absolument faramineux. Chaque immigré nous coûterait à la collectivité nationale, 100 000 euros par an. C'est-à-dire 20 fois plus que les Corses. Vous savez que les Corses sont supposés nous coûter 5 000 euros par an. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. C'est ce qu'en tout cas, c'est qu'une certaine presse, comme on dit, a affiché. Mais bon, ce calcul, et là c'est une très bonne question que la vôtre, est un mauvais calcul. Pourquoi ? Parce que en réalité, il faudrait effectivement, ce qu'a fait Bichot, décomposer de façon beaucoup plus fine ce que l'on met dans l'immigration et ce que l'on met dans l'intégration. Et ce qu'on va faire d'ailleurs, nous allons procéder à ce travail-là, mais c'est un travail assez long. Parce que moi je tiens essentiellement à savoir quel est effectivement le coût marginal, c'est-à-dire que nous recevons 250 000 personnes, combien ça coûte. Pour l'instant, nous en avons une idée, et cette idée est fournie par un autre calcul, mais qui n'est pas satisfaisant non plus. Vous voyez que finalement nous traitons une matière qui n'est pas facile, hein. Ce calcul est le suivant, il consiste à additionner les deux masses dont je vous ai parlé, 24 et 12, ça vous donne 36 milliards. Alors 36 milliards, c'est donc le coût de l'intégration et le coût de l'immigration. Et vous le divisez par quoi? Non pas par 250 000, c'est-à-dire ce qui arrive chaque année, mais par, alors un autre chiffre, sujet à caution, vous voyez à quel point il faut marcher avec précaution, 5 millions d'immigrés d'origine Afrique noire, Maghreb ou Turque.
Et pas l'Asie.
Comment?
Pas l'Asie, les Asiatiques.
Oh, les Asiatiques... Il y a deux raisons pour lesquelles on ne les met pas. D'abord parce qu'ils sont peu nombreux. En fait, on estime à 300 000 à peu près. C'est pas ça qui change la balance. Le nombre de Chinois. Et d'autre part, ce sont des gens qui s'intègrent instantanément. Et d'autre part, est-ce que vous avez connu beaucoup de Chinois en train de brûler des poubelles ou des voitures? Je n'en connais aucun. Ni Vietnamiens, ni Chinois. Donc, ce ne sont pas des gens à problème, en quelque
sorte. Ce qui n'exclut pas qu'ils soient mêlés à des trafics, comme
qu'est-ce qui n'est pas
mêlé à des
trafics.
Population peut y être exposée. Enfin, vous n'entendez pas compte.
Écoutez, ne nous mêlons pas de ce qui ne nous regarde pas. S'ils sont mêlés à des trafics ou non, je n'en sais rien. D'abord, vous non plus.
Non, mais il ne s'agit pas de... Voilà, c'est simplement... C'est un choix que vous avez fait.
C'est pas ça. Qu'est-ce qui va procéder à une évaluation du coût pour la collectivité des trafics chinois? Alors là, c'est vraiment... On tombe en plein délire.
Bien sûr. Non, bien sûr.
Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est les surcoûts de police qui ont été requis, le surcoût d'encadreurs, le surcoût, les immeubles détruits. Alors, et d'ailleurs, je vous signale au passage, à propos d'immeubles, que nous n'avons pas tenu compte, mais on aurait peut-être dû, du fait que, quand dans une région ou dans un quartier, vous avez une forte proportion d'immigrés, vous le savez, le prix de l'immobilier s'effondre. Et alors, si vous supposez, par exemple, que le coût de l'immobilier dans ces quartiers est de 500 milliards, une estimation un petit peu au fil de la plume, eh bien, on peut penser qu'il y a au moins 50 milliards qui ont disparu. Et ça, c'est une expérience vécue. Car je ne sais pas si vous lisez de temps en temps dans la presse, mais c'est intéressant. On entend des petits blancs, comme des petits blancs qui vivent dans, je ne sais pas moi, à Argenteuil ou à Montfermeil, qui disent, voilà, je vais acheter cet appartement à 1 million et je le revends pour 200 000 francs. Ce n'est pas du 50%, hein, c'est du 80%.
Oui, mais alors là, ça ne peut pas entrer dans vos statistiques.
Ben, on n'en a pas tenu compte parce que c'est évidemment un type de coût qui est très difficile.
Très difficile
que l'on devrait quand même noter. Parce que je trouve très très injuste que finalement les habitants des beaux quartiers se confortent dans leur certitude et dans leur acquis. Et puis alors laisse une partie de la population, finalement, de Français natifs, comme dirait Mme Tribala, subir le plein choc de ces événements. Je prends un autre exemple, les voitures brûlées. Bon, il y a eu 30 000 voitures brûlées, comme vous le savez, depuis le début de l'année 2005. Ce qui représente, à mon avis, bon, on a parlé de 200 millions, 300 millions d'euros, mais il ne reste pas moins que les assurances ne vont pas rembourser à 100%. Elles vont rembourser peut-être, comme elles le font habituellement, à 50%. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre de gens qui sont caissières dans un supermarché, etc., qui ont besoin d'aller en voiture, qui vont supporter la différence. Et il faut y penser à cela.
Je trouve que ce côté-là... C'est difficile à évaluer.
Ah oui, c'est quelque chose assez monstrueux de penser qu'il y a une bonne partie de Français qui vont subir de plein fouet, sans qu'on s'en préoccupe, le choc de ces événements.
Alors si l'on se recentre sur les deux chiffres que vous nous avez énoncés, donc le 24,2 plus 12, 36... vous avez divisé ce chiffre, 36 milliards, par 5 millions.
Voilà. Et je suis arrivé à 7 000 euros par tête de pipe. 7 000 euros.
Par individu.
5 millions. Alors là, on peut chipoter, on peut dire, ah, en fait, ils ne sont pas 5 millions, ils ne sont que 3,5. Mais si c'est 3,5 millions, le chiffre, c'est supérieur à ce moment-là.
Mais dans les 5 millions, vous comptez ceux qui ont obtenu la nationalité française?
Non, nous comptons tout.
Tout, c'est-à-dire
tout, c'est-à-dire ceux qui sont étrangers et ceux qui sont d'origine étrangère. Voilà.
Donc vous comptez tout. C'est une hypothèse, rappelons-le, puisque le chiffre n'est pas...
C'est une hypothèse quand même raisonnable.
Avérée.
C'est ce qu'on appelle une hypothèse raisonnable. Elle n'est pas héroïque, elle est raisonnable. C'est-à-dire que 5 millions, c'est quelque chose qui est communément accepté. Si vous lisez, encore une fois, les publications, tant françaises qu'étrangères d'ailleurs, le Wall Street Journal, par exemple, vient de sortir un examen là-dessus, on tourne autour de 5 millions. Voilà, grosso modo, de gens, de, non pas musulmans, mais d'influence ou d'origine musulmane. Vous voyez, voilà, c'est à peu près.
On marque une troisième pause, Yves-Marie Leland. Et toujours ce colloque de la Fondation Saint-Germain-Polignac, essai d'évaluation des coûts économiques et financiers. Il s'agit de l'immigration et de l'intégration, ce qui nous occupe depuis maintenant à peu près une heure. Vous avez mené ce travail d'évaluation, on est bien d'accord, mais d'évaluation sur la base d'hypothèses raisonnables. Avec ce chiffre que nous commentons, 36 milliards d'euros par an divisé par 5 millions d'individus, c'est l'estimation que vous donnez du nombre de personnes étrangères ou d'origine étrangère dans notre pays, et on arrive donc à ce chiffre de 7 000 euros par personne. Voilà. C'est ce que coûte à la collectivité chaque année.
Non, c'est un coût moyen.
Un coût moyen.
C'est un coût moyen, mais à mon avis, le coût marginal, vous connaissez bien sûr ce que ça veut dire, c'est-à-dire le coût du dernier immigré, si je puis dire, la dernière personne qui, au cours d'une année, ce coût doit être beaucoup plus, bien supérieur, en fait. Mais pour faire un travail sérieux, on ne peut pas se contenter d'une simple division, il faut aller faire un tri qui s'avère délicat entre ce qui relève de l'intégration et ce qui relève de l'immigration. Alors, ce qui relève de l'immigration, ça c'est relativement simple, en fait, stricto sensu. C'est-à-dire que c'est tous les coûts de la police des frontières. Le coût de logement, vous savez qu'on loge dans des hôtels à 20 euros, 40 euros la nuit, vous avez vu ça certainement, un grand nombre de personnes qui sont dans l'attente, quelquefois 2 ans, de leur droit d'asile.
Ou même les réfugiés de Sangatte.
D'ailleurs, ils n'obtiennent pas le droit d'asile, vous savez ce qu'ils font ? Ils disparaissent dans la nature et deviennent des clandestins. Alors, c'est tout à fait rassurant parce que ça veut dire que on leur donne à peu près à 10 000 personnes par an le droit d'asile. Il est accordé à 10 000 personnes. Et des demandeurs de droit d'asile, c'est 90 000 à 100 000. Donc, ça veut dire que, et nous retombons sur nos chiffres, 80 000 à 90 000 personnes rentrent chaque année dans le flux des clandestins. Bah oui, c'est par simple soustraction.
Ça, c'est un bon élément.
Et c'est quand même assez sérieux, cette estimation-là, parce qu'on sait quel est le montant des demandes. Ça, c'est clair. On le sait. On sait le montant des demandes qui sont acceptées. C'est également, c'est acté, c'est inscrit dans des statistiques sérieuses. Bon, par différence, vous avez le nombre des clandestins. Vous voyez ? Bon, ça représente donc des chiffres que l'on peut, que l'on peut justifier. Alors là, lorsque nous entrons dans le domaine de la santé, c'est déjà plus délicat, mais l'aide médicale gratuite, en fait, bénéficie essentiellement aux clandestins ou aux illégaux.
Donc là, c'est encore l'immigration. C'est dans le volet immigration,
oui, ça. C'est la même immigration.
Pas intégration.
Ben, bien sûr. Mais par contre, dès que vous entrez à la scolarité, alors attention, la scolarité, les enfants de clandestins sont scolarisés. Alors, est-ce qu'il faut le compter dans l'immigration ? Oui, peut-être, mais à quelle proportion ? Est-ce que pendant les 3 premiers mois de l'année, ils seront considérés comme immigrés, etc. C'est très difficile à faire. C'est ce qu'il faudra faire en faisant appel à ce que j'appelle des hypothèses raisonnables, mais héroïques.
Mais ce qui relève de l'intégration, c'est plus directement ce qui est lié à toutes les politiques publiques, à l'initiative que prend l'État républicain pour intégrer des populations. Là, c'est chiffré. C'est-à-dire, quand on prend la mesure de faire telle ou telle chose, cette décision, elle a un coût. Et ce coût peut être une ligne budgétaire.
Mais oui, attendez, c'est pas si simple que ça. Regardez par exemple, monsieur, le plan Borloo. Le plan Borloo, c'est 3 milliards. À 3 milliards qui se décomposent en logement, si j'ai bien compris, et puis chômage à peu près, grosso modo, quoi. Quelle est l'utilisation de ces 3 milliards ? On n'en sait rien. Au départ, c'était sur 15 ans. Puis maintenant, on dit que ça va être sur 18 mois. Enfin bref, vous voyez, là aussi, nous sommes dans un flou artistique qui tient très largement aux décisions de la puissance publique. Donc il faut bien travailler, comme je vous dis, un peu à l'estime. Je ne vois pas d'autre façon de faire. D'ailleurs, je dois vous dire que dans nos calculs, nous n'avons pas tenu compte du tout de l'accélération du plan Borloo. Nous sommes cantonnés, si vous voulez, sur des décisions qui datent déjà d'un an à deux ans. Vous voyez ?
Vous prenez en compte les politiques municipales ?
Non. Nous prenons en compte certains types de dépenses supportées par la collectivité territoriale, mais nous n'avons pas été faire l'inventaire de ce que les différentes municipalités qui viennent s'additionner, hein, qui viennent s'ajouter à tout ce qui est fait. Allez. Oui. Nous nous sommes cantonnés sur ce que l'on peut raisonnablement appréhender. Mais effectivement, vous avez raison, les municipalités font un énorme effort. Et d'ailleurs, la preuve, c'est la hausse des impôts locaux.
Si vous deviez, puisqu'il nous reste encore quand même quelques minutes, si vous deviez dessiner les grandes lignes d'une politique d'intégration, quelle serait-elle ? Par quoi faudrait-il commencer ?
D'abord,
si vous deviez remettre à plat le système.
D'abord, je ne suis pas sûr que ça marcherait, parce que dans l'histoire du monde, je ne connais pas d'exemple de communauté massive et en croissance musulmane qui se soit paisiblement intégrée dans une communauté nationale étrangère.
Oui, mais vous avez dit au début,
la preuve, le Kosovo,
il faut les intégrer.
La preuve, regardez la Bosnie, et c'est ce qu'on apprend aujourd'hui sur la... Bon. Mais laissons de côté, après tout, bon, il faut quand même essayer. Hein. On sait ce qu'on va dépenser, mais on n'est pas sûr que ça va réussir. Alors si on devait réussir, je pense qu'il faudrait s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, il y en a deux. Il y a les familles. Il faut s'intéresser aux familles d'immigrés. Il faut frapper, si j'ose dire, en amont. C'est-à-dire veiller à ce que le père et la mère, ce qui pose le problème de la polygamie, merci le Conseil d'État et l'arrêt Monchaux, que les familles soient elles aussi plus ou moins intégrées, qu'elles soient soumises à une influence d'intégration. On ne peut pas les laisser dans le désert, c'est pas possible. Parce que, comme chacun sait, des enfants sont élevés en famille. La deuxième étape, c'est l'éducation, et dès la maternelle. Et de ce côté-là, puisque l'éducation nationale a échoué, on peut dire les choses brutalement, je me demande s'il ne faudrait pas prévoir un système entièrement nouveau. Construire une nouvelle structure d'enseignement qui soit spécialement adaptée aux besoins spécifiques de ces populations.
Alors là, ça veut dire des écoles particulières,
Écoutez, l'enseignement privé, hein, en France, des écoles particulières.
Mais vous allez fabriquer un ghetto de plus.
Un nouveau statut, comment ?
Vous allez fabriquer un ghetto de plus, un ghetto légal.
D'où sortez-vous que je fabrique un ghetto de plus ?
Si vous mettez une école pour les populations étrangères,
non, mais attendez, il faut pas
l'école
jouer,
n'est plus un rôle intégrateur.
Il ne faut pas jouer avec les mots. Il n'est pas question de ghetto de plus. On crée une structure nationale, donc pas de ghettoisation, ayant ses caractéristiques spécifiques, son corps d'enseignement spécifique, ses méthodes spécifiques, qui soient applicables à ces populations spécifiques. Où voyez-vous du ghetto là-dedans ? Moi, j'en vois pas. Et troisièmement, au-delà de cela, il y a évidemment une deuxième population qui est beaucoup plus difficile à manipuler, ce sont les adolescents. Ceux de 10 ans à 25 ans, en réalité. Ceux que l'on voit traîner dans le RER, hein. Généralement, ils parlent mal français. Ils sont déjà bien souvent influencés par la recherche de la CAM, de la drogue, la délinquance. C'est une population très difficile. Mais il faut l'appréhender, celle-là. Et je crois que l'idée d'un service militaire obligatoire est une bonne discipline. Car moi, je l'ai fait, hein, peut-être vous aussi d'ailleurs. Et à ce moment-là, on apprend la discipline, le drapeau, et à obéir. Sinon, évidemment, on va en tôle. Il faut reprendre les choses à la base. Et troisième étape, bien sûr, l'entreprise. Le travail, et pas des faux emplois de type assistanat social d'État, comme Mme Aubry nous en a fait royalement cadeau avec 300 000 emplois jeunes. Des emplois jeunes qui ne débouchent sur rien, qui n'apprennent rien, et qui ne servent à rien.
Famille, éducation, entreprise, vos trois axes, qu'est-ce que vous supprimeriez ?
Rien, je garde le tout.
Non mais pas dans les trois axes, dans ce qui existe aujourd'hui.
De ce qui existe, mais tout. C'est-à-dire que je pense tout ce qu'on a fait, et je suis très sceptique de ce qui s'y fait. Très sceptique, ça n'a pas marché. C'est pas parce que vous auriez 10 000 éducateurs, là vous en aviez 5 000, que vous allez arriver à quelque chose. Si ces éducateurs ne sont pas considérés, s'ils sont méprisés et quelquefois violentés, vous n'ajoutez qu'une couche de plus à ce qui existe déjà. C'est ce que je disais en début. Donc, je pense que dans ce domaine-là, si on veut réussir, il faut partir de zéro. Je suis pour une révolution radicale dans les mesures d'intégration et je n'en vois pas la trace.
Pensez-vous que la question puisse être résolue à l'échelle européenne ?
Bien sûr, parce que la France est un cas unique. Nous avons 5 millions de musulmans, les Allemands en ont 2,5 millions à tout casser, les Anglais 1,3 million à peu près, et les Espagnols, les Italiens très peu, entre 300 000 et 600 000. Nous avons laissé en 30 ans se créer un problème spécifique en France. Et nous sommes devenus très vulnérables au sein de l'Europe. Donc, Il faut que nous appréhendions le problème dans un cadre européen, parce que nous ne résoudrons pas cette question seuls. Nous la résoudrons ensemble, ou bien alors nous nous casserons la figure, pardonnez-moi l'expression, ensemble.
Mais là, vous imaginez, là aussi, poindre une prise de conscience à l'échelle européenne ?
Non, je vois beaucoup de craintes, je vois des appréhensions, je vois des méfiances. Ce que je crains, c'est de voir la France mise en quarantaine au sein de l'Europe, en disant, bah, écoutez, vous avez voulu ces immigrés, vous les gardez. Ça, c'est un danger. Je vois la France mise en quarantaine du point de vue de l'euro, en disant, bon, bah, écoutez, vous avez une balance des paiements déficitaire, des dépenses inconsidérées, mais tant pis pour vous, l'euro, c'est plus... Parce que l'euro nous soutient, sur le point de vue extérieur. Hein. Nous ne voulons plus jouer ce genre de jeu. Donc, il y a un danger terrible de voir la France isolée au sein de l'ensemble européen, au sein de la construction européenne. Et ce n'est pas un danger mineur, croyez-moi.
Et l'Europe ne regarde pas vers l'Afrique, ne regarde pas vers le Sud, elle regarde plutôt vers l'Est ou vers les États-Unis.
Oh, l'Europe ne regarde nulle part, en fait. Il n'y a pas de politique européenne, il n'y a pas de direction européenne, il n'y a pas d'orientation générale en Europe. L'Europe regarde un peu n'importe où, comme un bébé de quelques mois qui n'a pas encore appris à focaliser son regard.
Mais il n'y a guère que la France qui s'intéresse à son ancien précaré.
Ah non, je pense qu'il y a quand même un intérêt en Allemagne, un intérêt modéré en Angleterre, mais il est clair que vous avez raison de dire qu'il n'y a pas cette espèce de vocation historique qui est la nôtre, mais que nous avons quand même galvaudé, hein, il faut le reconnaître.
Alors voilà pour toutes les indications que vous avez pu nous donner, Yves-Marie Leland, sur ce colloque. Un essai d'évaluation des coûts économiques et financiers, immigration, intégration, organisé par la Fondation Saint-Gerre-Polignac, c'était le 17 novembre. Vous aviez donné un précédent colloque sur... ces migrants qui changent la face de l'Europe. C'était la deuxième phase. Il y en aura une troisième ?
Non. J'ai décidé que je ne me couperai jamais plus du problème d'immigration. J'ai donné. Je pense que ça suffit comme ça. Je vais m'occuper d'autre chose. Je ne sais pas encore de l'élevage des faisans en Moldavie au XVIIe siècle. Enfin, quelque chose d'intéressant, mais plus d'immigration. Écoutez, franchement...
Mais parce que vous avez tout dit sur le sujet ?
Mais j'ai déjà énormément travaillé sur le sujet. 35 ans, vous ai-je dit.
Oui, mais vous nous avez dit qu'il manquait quand même pas mal de choses, du fait que l'information est parcellaire.
Oui, monsieur, mais je pense qu'il est temps que le pouvoir public prenne leurs responsabilités. Je ne suis pas ministre, je me permets de vous le répéter. Je suis voltigeur, si vous voulez. Je travaille parce que je pense que c'est fondamental pour l'avenir de ce pays que j'aime, pour mes enfants, les enfants des autres. Mais je ne vais pas me substituer à la puissance publique. Donc, en ce qui me concerne, je pense que ce sera la dernière contribution à ce problème.
Merci beaucoup Yves-Marie Leland de nous avoir fait partager en tout cas vos analyses et celles des personnes que vous avez mises à contribution pour ce colloque organisé par la Fondation Saint-Gerre-Polignac. Je rappelle également les titres de vos derniers ouvrages parus, Allemagne, chronique d'une mort annoncée chez François-Xavier Guibert et L'avenir démographique des grandes religions au même éditeur.